Je t'invite donc à relire dans le livre des Actes des Apôtres, qui est la suite immédiate de l'évangile de Luc, c'est le même auteur, ce début de chapitre 2, donc Actes 2, les chapitres 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tout le pays, de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait chaque croyant parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration. Ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive et pourtant nous les entendons tous parler dans nos diverses langues des grandes œuvres, des merveilles de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient que penser. Ils se demandaient les uns aux autres « qu'est-ce que cela signifie ?» Mais d'autres se moquaient en disant « ils sont complètement ivres ». Je ne répondrai pas à la dernière question du texte, je vous laisserai libre d'en décider vous-même. Mais le récit de la Pentecôte fait partie de ces textes fondateurs qui continuent siècle après siècle, et pour nous aussi qui suivons des générations de catéchumènes passées par nos différents groupes année après année, ces textes continuent à interroger notre manière de vivre et de croire. Nous retenons souvent les images les plus spectaculaires. Bon, oui, c'est ce qui frappe l'esprit, hein, le vent violent, les langues de feu, l'art religieux, les vitraux, etc. Nous en ont laissé beaucoup de témoignages éclatants. Mais si nous nous arrêtons à l'extraordinaire, nous risquons peut-être, sûrement même, de manquer l'essentiel. Ce texte ne raconte pas d'abord un miracle destiné à impressionner. Ce n'est pas ce qui a été voulu dans ce texte. Il parle plutôt de femmes et d'hommes enfermés dans la peur et le découragement. C'est dans cet état que se trouvent les disciples au début du texte et qui retrouvent peu à peu la capacité de parler. Encore une fois, ils sont traqués à Jérusalem, les autorités les cherchent parce qu'ils étaient les disciples de Jésus. Ils sont donc tout à fait inquiets, terrorisés même, et se terrent chez eux. Ce récit prend aujourd'hui une tonalité assez particulière puisque trois de nos jeunes aujourd'hui confirment leur baptême ou demandent à recevoir ce baptême, et leur présence nous rappelle que l'Église n'est pas un héritage figé, tourné vers le passé. Elle reste, et heureusement pour nous, un lieu vivant où l'on cherche librement un chemin de sens, de confiance, mais aussi de fraternité. C'est ce que l'on apprend pendant toutes ces années, c'est ce que l'on souhaite garder et retenir tout le reste de sa vie, puisque ce qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas une fin, bien sûr, mais un nouveau commencement. La dimension collective ne doit jamais être oubliée, d'ailleurs, si la confirmation de l'alliance ou la demande d'un baptême sont bien des demandes individuelles. Chacun, tout à l'heure, avec le micro dans la main, dira « je ». C'est bien un appel individuel. Mais l'accueil à la scène qui suit nous inclut, vous inclura, tout à l'heure, dans la communion avec d'autres, celles et ceux avec qui vous faites Église, officiellement, de manière plus marquée, à partir d'aujourd'hui. Donc il y a de l'individuel, pas du solitaire, mais aussi du collectif, de la communion à rechercher avec ceux qui sont là. Dans les premières années du christianisme, les disciples ne donnaient pas l'image de personnes installées dans une certitude tranquille. Je vous l'ai dit, ils étaient terrorisés, dans un état d'esprit tout à fait différent que ceux qui assènent quelque chose d'absolument certain, fiable et immuable. Ils étaient tout sauf ça. Nous aussi. Et pourtant, quand ils prennent la parole ce jour-là, leur parole déconcerte. On ne les attend pas. On ne s'attend pas à ce qu'ils le parlent dans toutes les langues. Et pourtant, tous ces gens venus de toute la terre habitée, du monde connu de l'époque, vous avez entendu la longue liste des pays de provenance, c'est toute la terre connue à cette époque-là. Ils viennent de partout et ils sont entendus. On leur parle et quelque chose se fait que personne n'est exclu ce jour-là. Le monde dans lequel ils vivaient, le monde grec, valorisait la raison, la sagesse philosophique. L'Empire romain qui les dominait à cette époque-là reposait, lui, plutôt sur l'ordre et la hiérarchie. Ça ne rigolait pas avec la Pax Romana. Et voilà qu'apparaît un petit groupe d'hommes, d'abord inquiets, même terrorisés, je vous l'ai dit, et qui petit à petit se remettent à affirmer qu'un homme pourtant crucifié est toujours vivant. Voilà. Au milieu de ce contexte, ce petit groupe se met à affirmer une chose pareille. Que les frontières religieuses et sociales perdent de leur importance. Ça a été important longtemps, ça nous a cloisonnés, divisés longtemps, mais c'est terminé maintenant. Tous les êtres humains sont appelés à former une même famille. Il fallait oser, en ayant encore les rotules qui tremblent, sortir tout juste de chez soi. Ils l'ont fait. Pas étonnant que certains réagissent par la moquerie, ils sont complètement ivres. Ils sont pleins de vin doux, disent les versions classiques. Peut-être parce que le vin doux monte plus vite à la tête, on est plus vite ivre. En tout cas, ce ne sont pas des gens sérieux. Pas avec un message pareil, pas en se mettant à parler à tout le monde comme ça, sans retenue. Leur enthousiasme paraît excessif et vous savez bien qu'il y a de nombreuses circonstances où il faut se méfier des enthousiastes. Leur discours est complètement irréaliste. Comment faire confiance à ce petit paquet ? La remarque est importante. Si l'on doute d'eux, ce n'est pas sans raison. Nous aurions peut-être fait la même chose en les entendant et en les voyant faire ce qu'ils faisaient. La remarque montre en tout cas que l'Évangile ne s'impose jamais par l'évidence. Mais Jésus avait déjà rencontré la même difficulté. Certains sont convaincus, d'autres haussent les épaules et puis s'en vont. Ça n'a jamais été convaincant pour tout le monde. Même avec une guérison, même avec un miracle, certains voient et croient et d'autres s'en vont. Ça a toujours été comme ça, c'est la même chose pour les apôtres qui prennent la suite. Pas étonnant donc de voir de l'incompréhension et une certaine moquerie même. Ça nous éloigne parfois de l'image rassurante que nous aimerions avoir de nous-mêmes aussi et de l'Église que nous formons. Après tout, nous n'avons plus peur et nous sommes beaucoup, surtout ce matin. Quand on est beaucoup, on a moins peur. Nous voudrions peut-être que la foi apparaissent comme une vérité claire, évidente, tellement évidente qu'il n'y aurait même plus besoin de la traduire comme ils l'ont fait ce jour-là. La décliner, l'expliquer pour que chacun reparte avec quelque chose. Nous aimerions peut-être la lancer en paquet, chacun recevant son paquet, se débrouillant pour l'ouvrir, couper la ficelle avec les dents et se débrouiller avec le contenu. La Pentecôte ne marque pas le triomphe d'une communauté qui serait devenue puissante. Et ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui non plus. La Pentecôte marque plutôt la naissance d'une parole qui est encore vulnérable et qui le restera toujours parce qu'elle sera tantôt crue, tantôt rejetée. Mais désormais impossible à faire taire. Elle n'est pas toujours crue, mais personne n'a réussi à l'éteindre. Ce n'est pas tout à fait une jeune pousse, ce groupe de disciples. Ce n'est pas encore un chêne indéracinable, c'est quelque part entre les deux. Un processus en cours. Il faut aussi rappeler que la Pentecôte n'est pas d'abord une fête chrétienne, c'est surtout une fête juive d'abord. Elle était célébrée 50 jours après la Pâque, d'où le nom Pentecôte, qui contient en grec le mot 50, pour remercier des dons reçus. C'était une fête de louange. On remerciait pour ce qu'on avait reçu, pour les récoltes, pour la libération d'Égypte. On faisait tout en même temps. Les premiers chrétiens vont relire cette fête à la lumière de la résurrection de Jésus. La sortie d'Égypte devient le symbole d'une autre libération. Il y a celle-ci, bien sûr, et nous ne l'oublions pas, mais il y a celle-ci plus récente encore, et qui est au fond un peu la même, ou qui dit autrement la même chose. Non seulement être délivré d'un oppresseur extérieur, mais aussi de tout ce qui enferme intérieurement, la peur, le fatalisme, les préjugés, le désespoir, tout ce qui enserre les vies et les étouffe. Cette liberté nouvelle ne surgit pas instantanément comme ça, c'est même un des aspects les plus touchants du récit. Les disciples ont vu le tombeau vide et entendu les paroles du ressuscité. Il a fallu déjà un certain temps pour passer du désespoir à l'espérance. Ça n'a pas été facile pour eux. Et pourtant, au début de ce texte, ils restent encore enfermés. Ils peinent encore à croire qu'un avenir est possible. Ça viendra petit à petit. Nous pourrions être un peu surpris de cette lenteur, surtout avec les événements violents, un bon coup de vent, les langues de feu, etc. Ça devrait décoincer la situation. Mais non, la lenteur est quand même la règle. Il faut du temps, il nous faut du temps. Comment aurions-nous agi ou réagi à leur place ? Nous savons bien, nous aussi, qu'il existe des vérités que l'on comprend longtemps après les avoir entendues. Nous sommes lents, parfois. Certains événements ne révèlent leur sens qu'avec le temps. Ce n'est pas parce que nous sommes bêtes, mais c'est parce que nous ne découvrons les choses que morceau par morceau, surtout si le message est d'importance. Le texte des Actes parle de l'esprit comme d'une irruption soudaine. C'est bien vrai, un vent, un feu, un bouleversement. Il y a dans la manière de Luc de décrire cet événement une espèce de brusquerie qui veut provoquer quelque chose. Et pourtant, l'œuvre de l'esprit ressemble souvent davantage à une maturation lente. Nous n'avons pas tous à notre actif des témoignages d'une brusquerie comparable. C'est comme un fruit qui demande du temps avant d'arriver à maturité, une parole qui grandit tranquillement avant de pouvoir être prononcée. C'est plutôt ce second modèle que nous rencontrons souvent. L'esprit n'est pas seulement l'instant spectaculaire d'une révélation, d'une réception de quelque chose d'étonnant, d'une révélation nouvelle. C'est aussi un cheminement intérieur long qui permet de passer progressivement, comme les disciples, de la peur à la confiance, du repli à l'ouverture, du silence à la parole. L'esprit, on pourrait le décrire comme ça, est un processus en cours. Il se déroule en nous au fur et à mesure que nous réagissons à une parole qui nous pousse à la vie. Il est acteur quelque part à l'intérieur. Et ça demeure vrai pour chacun d'entre nous. Nous aimerions parfois que la foi se transforme, nous transforme immédiatement, et qu'elle fasse disparaître nos hésitations. Nous attendons parfois cette brusquerie, elle nous arrangerait bien par moments. Mais même les apôtres ont dû attendre et apprendre à devenir libres lentement. La foi n'est pas un état de perfection atteint une fois pour toutes. C'est un mouvement, une recherche qui a ses hauts et ses bas, une manière de se laisser transformer au fil du temps. Au cœur du récit se trouve peut-être ce constat, les foules entendent, comprennent, on fait ce qu'il faut. Le miracle n'est pas seulement que les disciples parlent seulement les langues de tous ceux qui sont là, ce qui est déjà bien. Le véritable miracle, c'est que chacun entende dans sa propre langue les merveilles de Dieu, ou les hauts faits de Dieu, selon les traductions. L'esprit ne produit pas de confusion, il rend possible la rencontre, ne supprime pas les différences entre ces peuples ou ces cultures. Chacun va retourner chez soi, mais différent, avec un cadeau reçu, mais pourtant le même. Et il rejoindra chacun son pays et sa culture. Il permet à des personnes différentes de se reconnaître comme appartenant à une même humanité. C'est ça, le miracle. Et il n'est pas évident, et parfois il nous prend du temps. C'est pourtant une idée capitale. Depuis toujours, les sociétés humaines construisent des frontières, à raison pour beaucoup de choses, entre les peuples, les religions, les générations, les catégories sociales, mais le « eux » et « nous » se durcit aussi parfois et apporte plus d'inconvénients, même de problèmes, que de solutions. Souvent, ces distinctions deviennent des prétextes pour exclure ou mépriser, et le jour de la Pentecôte, c'est l'inverse qui se produit. La Pentecôte conteste cette logique. Elle contestera cette logique dans nos têtes, dans nos cœurs, chaque fois que nous relirons ce texte. Plus tard, Paul s'écrira dans une de ses épîtres, « En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme », c'est-à-dire les principales coupures nettes des sociétés antiques. Ça ne doit plus exister. C'était très fort d'affirmer ça à cette époque. Ça nous paraît plus évident maintenant, même s'il y a encore du travail. Mais à l'époque, c'était une vraie nouveauté. Le Dieu qui se révèle dans l'Évangile, parce que c'est la suite de l'Évangile de Luc, ne parle pas à une petite élite religieuse qui aurait tout compris, chargée de transmettre ensuite la vérité à d'autres de façon surplombante, descendante et un peu condescendante. Il rejoint chacun dans sa propre langue, dans son histoire et dans son expérience de vie. Et une fois que la rencontre a eu lieu, alors nous pouvons repartir d'où nous venons, en attendant une autre rencontre, sans doute. Mais nous pouvons redevenir ce que nous sommes, un peu différents, à cause de cette rencontre. La révolution spirituelle considérable de ce texte est dans cette rencontre. Il devient impossible, ou il devrait être impossible, d'enfermer Dieu dans une seule identité, une seule culture ou une seule institution. Ça paraît évident quand on le lit. Là encore, il nous a fallu du temps, et ça n'est pas fini. Les autorités politiques et religieuses de l'époque ont rapidement compris qu'un message pareil n'était pas anodin et même qu'il leur apporterait beaucoup de problèmes. Une parole qui affirme la dignité fondamentale de tous les êtres humains remet toujours en question des systèmes de domination et ils étaient très consistants à l'époque. La fraternité véritable n'est jamais une idée abstraite, c'est toujours quelque chose de concret. Et quand on souffre de son absence, on en souffre concrètement. Voilà pourquoi la Pentecôte reste un texte actuel. Dans les sociétés traversées par des peurs identitaires, les nôtres sont encore comme cela, des replis communautaires, nous le voyons nous aussi, ce récit rappelle qu'aucune humanité ne peut grandir durablement en fabriquant des sociétés de séparation et de méfiance. Ça peut se construire, mais ça ne tient pas. Le rôle de l'Église n'est pas d'entretenir des frontières, ni de désigner des ennemis. Nous pourrions nous contenter comme seul témoignage d'avoir ce seul texte, ce seul chapitre des Actes de Luc pour nous adresser au monde alentour, ça suffirait presque. Le rôle de l'Église donc n'est pas d'entretenir ses frontières, mais de les mettre en question, de les critiquer et de faire vivre une parole capable de relier les hommes et les femmes d'ici et d'ailleurs d'où qu'ils viennent, puisque c'est ce que les apôtres ont fait ce jour-là. Les fameuses merveilles de Dieu n'apparaissent pas dans des démonstrations de puissance, ni dans des certitudes imposées, pas d'enseignement magistral, pas de chair surélevée, vous voyez, comme celle-là, au-dessus des autres. Les merveilles de Dieu n'apparaissent pas dans des démonstrations, dans quelque chose qui est irréfutable. Chaque fois qu'une parole relève au lieu d'écraser, chaque fois qu'une communauté choisit l'accueil plutôt que le rejet, l'Esprit souffle sur elle et sur tous ceux que nous sommes amenés à rencontrer dans ces occasions. C'est précisément dans cette aventure de rencontre que s'engage aujourd'hui chez Lisno, Raphaël et Lucas, entre un choix personnel où il faut dire « je » et l'inclusion dans une communauté où ils ne seront, pas plus que nous, tout seuls à faire ce travail. Le baptême ou la confirmation du baptême ne marque pas l'entrée dans un groupe de personnes parfaites. Je me suis mis une petite étoile dans le texte juste pour regarder la tête que vous faites au moment où je le dis. Ça va, vous êtes tranquille avec cette idée, hein ? Pas d'entrée dans un groupe de personnes parfaites. Ça soulage, ça détend les cervicales. Ce choix d'un chemin, c'est croire que l'existence humaine ne se réduit pas à ce que le monde autour nous propose, à sa compétition, sa peur, son indifférence et ses cloisonnements. C'est ce que vous êtes venu apprendre ici, année après année, au milieu de nous, et que vous êtes chargé de vivre et peut-être aussi de transmettre déjà à votre manière quand vous sortirez d'ici. Confiance, responsabilité et fraternité. Votre présence parmi nous nous rappelle aussi, à nous tous autour de vous, quelque chose d'essentiel. La foi n'est jamais simplement héritée, comme un cadeau qu'on reçoit et qu'on ouvre parfois plus tard, peut-être parce qu'on sait ce qu'il y a dedans, et qu'on n'est pas pressé d'ouvrir le paquet. Ça doit devenir une parole personnelle. Les disciples de Pentecôte ne répètent pas mécaniquement des formules qu'ils ont apprises. Pas de deux points, ouvrez les guillemets, des paroles de Jésus apprises, débitées comme ça devant ces gens qui viennent de toute la terre habitée. C'est leur propre parole, leur propre manière de comprendre les choses. Dire « je », c'est avoir aussi son propre contenu à dire. Les disciples parlent parce qu'ils ont été intérieurement transformés, parce qu'ils ont vécu, et nous, c'est la meilleure chose que nous puissions vous souhaiter à vous. La parole devient vivante, elle engage toute l'existence, elle fait de votre témoignage quelque chose qui est unique. Personne ne dira ce que vous direz à votre manière. Voilà ce que nous pouvons vous souhaiter aujourd'hui, que votre foi, qui est commençante, hésitante, sans doute pas parfaite, pas plus que la nôtre, demeure toujours une recherche vivante et pas une habitude, qu'elle vous aide à construire des liens plutôt que des cloisons, et qu'elle vous donne le courage d'espérer malgré tout. Et en nous retournant autour de nous en ce moment, il y a vraiment de quoi être inquiet. Mais ça ne doit pas avoir le dernier mot pour ce que vous envisagez de votre vie. C'est ça, l'esprit qui souffle. L'esprit continue de souffler, d'ailleurs, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, la nôtre aussi. Il souffle chaque fois qu'une parole de vérité ouvre un chemin de réconciliation, chaque fois qu'une présence humaine redonne confiance, chaque fois qu'une communauté choisit de faire passer la fraternité avant la trouille des autres. Je ne sais pas si vous attendiez spécialement une définition des merveilles de Dieu, mais en tout cas, en voilà une. Amen.